les rencontres du Café Psy avec Claudine Bozio, psychanalyste, sur le sujet de l'homme mis à nu. Claudine, dans le cycle de vos conférences, maintenant nous abordons le sujet « À l'ombre du Père ». Est-ce que le Fils peut exister à l'ombre de ce Père ou doit-il attendre que cette ombre se détache du sol, c'est-à-dire, si je comprends bien, que ce Père disparaisse ?
Pour que le Fils puisse être, effectivement, il faut qu'il se débarrasse de cette ombre. Ça signifie qu'il ne doit pas forcément attendre la disparition du Père physiquement, mais il doit, comme on dit, tuer son Père symboliquement. Donc il doit se détacher, se mettre à distance de cette ombre qui le recouvre et de par le fait qu'il en soit recouvert, ça risque de le mettre du mauvais côté du soleil.
C'est si difficile pour un fils de prospérer à l'ombre de ce père omniprésent ?
Oui, parce que cette ombre, elle a quand même des effets obscurs et puis des effets ravageants sur le fils. Dans la mesure où on voit déjà que ça rend, si vous voulez, cette ombre, elle va rendre pour le fils une vision ou une compréhension très opaque et donc si très épaisse de cette relation déjà qu'il peut avoir avec ce père, et dans la mesure où elle est opaque, bien, elle va provoquer chez lui de très fortes angoisses. Alors, cette ombre vient du fait, déjà qu'on voit que le destin du père et du grand-père, puisque chacun a eu un père et que parfois ça se suit dans la lignée, le destin du père et de son propre père à lui cohabite dans l'inconscient du fils. Donc il y a déjà dans le rapport générationnel, du côté de la transmission, quelque chose qui se fait et qui doit se faire dans la transmission de père à fils. Mais on voit que dans certaines relations et donc dans certaines familles, les adultes qui sont d'abord son père et qui a été avant son grand-père, ces adultes-là trimballent non seulement leur fragilité, mais aussi le poids du silence de la famille et puis des formes de résidus traumatiques que le fils va devoir porter ou véhiculer sous la forme d'une faute. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que très souvent, lorsqu'il y a des secrets et lorsqu'il y a du silence entre eux, que dans cette transmission, justement, eh bien, trop de choses sont retenues, trop de choses sont contenues de la part du père, eh bien, le fils va se retrouver en difficulté, dans une quête d'identité qui va faire que quand il va vouloir mettre en place tous les puzzles pour pouvoir essayer d'attraper un bout de cette identité, et bien ça va se faire avec fracas dans cette association de toutes ces pièces qu'il va vouloir assembler comme un puzzle, et avec des vides, avec des blancs, et sous cette forme de fracas, ça va toujours lui laisser une douleur irrémédiable.
L'héritage de ce père est toujours lourd à porter.
Cet héritage est lourd à porter, mais elle est lourde à porter surtout quand le fils va se retrouver à enquêter. Bon, parce que quand les pères transmettent et suffisamment de choses à leur fils, ils posent des repères. Et le fils, quand il doit se poser beaucoup de questions, sur lui, sur ce qu'il a à faire, comment il a à le faire. Parce qu'au fond, le fils, au départ, il devrait plus être occupé à réfléchir à ce qu'il est, et à réfléchir à ce qu'il crée, plutôt qu'à penser ou à réfléchir à l'homme auquel il doit la vie. Et quand il est occupé, et voire surtout préoccupé à rechercher des éléments qui n'ont pas été dit, ou qu'il y a un trop lourd passé qui vient comme ça le recouvrir, ce que moi j'évoque ici du côté de l'ombre, Le fils est obligé, d'une part, d'être tout le temps tourné vers le passé plutôt que d'avoir à s'occuper de son présent à lui. Donc ça crée forcément une distorsion dans sa vie et il est plus orienté à avoir à mener une enquête sur les pas d'un homme perdu, parce qu'il ne connaît pas, un homme qui lui échappe, et plus à mener une enquête sur les traces d'un homme qui n'a pas d'empreinte. Donc le fils se met à fouiller l'ambivalence de ce père qui est là, mais en même temps qui dit pas grand-chose, et le fils va avoir à soulever ce qui est dissimulé. Et ça, de par le fait qu'il est orienté vers cette enquête qui le tourne fondamentalement vers un passé, et ça va peser de tout son poids déjà, mais plus à donner une intensité à ce passé qu'à avoir, comme je l'ai déjà dit, à vivre ce présent. Et plus le fils est sollicité par ces questions épineuses du côté de l'identité, plus il se pose de questions. Et pourquoi il s'en pose ? Ben parce qu'il vit dans un milieu où les repères sont brouillés. Il vit de là où les choses ne sont pas dites, les choses ne sont pas posées. Enfin, il y a un grand manque de repères. Alors pourquoi c'est si important pour ce fils-là ? Et ben parce que déjà, pour le petit homme qu'il est quand il est enfant, durant cette quête d'identité qui lui est nécessaire pour son développement, le petit homme a besoin de se projeter sur un modèle, mais pas simplement sur un modèle social qu'est son père, pour pouvoir un peu prendre des éléments qui lui permettront à un moment donné d'être ceci ou d'être cela, enfin de pouvoir l'orienter, quoi.
Et vous dites qu'il va chercher dans sa propre affectivité des ressources pour comprendre l'autre absolu qu'est son père.
Oui. Il a besoin que cet autre absolu qui est son père lui donne suffisamment d'éléments. Donc au départ, il va créer un rapport ou l'identification ou le fait d'avoir des identifications avec ce modèle-là pourrait lui permettre justement d'en savoir quelque chose sur lui. Et quand il y a justement une ombre qui au fond se crée dans l'interstice de leur relation, le fils se trouve suspendu comme ça, comme un funambule sur un fil, sans savoir trop comment, en étant suspendu, le risque de chuter est grand pour lui. Donc ça peut non seulement donner cette opacité, ces angoisses, mais en même temps la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir, la peur de chuter et de jamais se sentir suffisamment solide et consolidé dans son parcours et cette traversée. Donc comme si le père cachait quelque chose, ou avait quelque chose qu'il retenait à l'intérieur de lui et dont le fils ne comprend pas pourquoi il ne livre pas, ou comme s'il y avait quelque chose d'imprenable, quoi, pour lui.
Il y a toujours forcément l'ombre de ce père pour un fils ?
Non, pas forcément. Pas forcément. Il y a dans la transmission, bien sûr, toujours quelque chose qui a à se dire et à se transmettre. Donc c'est vraiment dans la manière de transmettre de père en fils et du père à son fils les éléments qui permettent à un fils de pas simplement être collé à une identification qui ferait que le père attend de ce fils qu'il simplement reproduise un schéma tel que le père l'attend ou tel que le père lui dit de correspondre. Le fils veut découvrir de la part de son père l'homme qui est son père, l'homme tel qu'est son père, pas forcément tel que le père lui dit dans son discours. Le fils attend de ce père qui ne soit pas simplement qu'une reproduction ou un calque de ce père, mais que ce père véritablement lui montre émotionnellement aussi, intérieurement, des différentes facettes de sa personnalité et le laisse approcher dans un domaine qui lui assure au fond que d'être à son tour un fils qui deviendra peut-être un père lui-même à son tour. C'est une traversée, c'est un passage, mais c'est pas quelque chose d'inaccessible. Même ça peut être simplifié. Si le père met le fils du bon côté du soleil, forcément il va le mettre dans la lumière. Il va lui donner les moyens suffisants d'avoir un éclairage qui va donner une saveur au fils particulière. Et donc, il va favoriser l'avancée du fils. Mais si le père, lui, il est simplement tenu dans un discours, on va dire, qui l'exemple de ne pas se montrer tel qu'il est fondamentalement et de ne pas livrer à son fils toutes les choses qu'un garçon doit savoir de la vie d'un homme, parce qu'avant tout qu'il soit son père, c'est un homme. Donc s'il ne lui donne pas les clés, au fond, cette ombre, au fond, cette part obscure, forcément, oblige le fils à n'avoir le choix que du noir. C'est-à-dire à faire ses propres preuves, à chercher un peu dans tous les sens en se cognant un peu partout, sans jamais véritablement trouver ce qu'il a trouvé. Alors trouver ce qu'il a trouvé, c'est assez simple. Il suffirait que le fils, même sa propre vie et son propre éclairage. Mais si on vient à ce que je disais au départ, qu'il a besoin d'un modèle pour prendre corps et pour prendre effet, pour que ça puisse prendre effet sur lui, il lui faut quand même quelqu'un au départ. Voilà. Et c'est ce point de départ qui va faire dire à Nietzsche que nul ne peut sauter par-dessus son ombre. Voilà, il y a à un moment donné, si les choses ne sont pas claires, alors c'est ça le problème, est-ce que quand le père va échouer comme ça lui-même à ne pas pouvoir comprendre et à communiquer sa propre expérience de ce qu'il y a en lui de plus singulier, est-ce que le fils va en être capable? Ben non. Si le père ne traduit pas à son fils des choses et qu'il échoue lui-même à se comprendre en tant qu'homme, bah qu'est-ce qu'il va faire vis-à-vis du fils? Il va essayer de le calquer à une image et une interprétation que le père se fait de son fils, un peu comme un clone. Et le fils, sur quoi il tient, quoi? Il tient sur un sable mouvant, parce que le père, à ce moment-là, il a un discours vis-à-vis du fils qui est un discours qui repose pas sur des valeurs et des bases. C'est un discours presque interprétatif, un discours répétitif, un peu comme on lance des phrases en l'air comme ça, mais qui ne repose pas sur une réalité d'une vie qui va prendre consistance. Donc c'est « il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, t'as qu'à savoir faire ci, t'as qu'à devenir ça, mais t'as qu'à où il faut », le fils va essayer de s'y coller, mais il faut t'as qu'à quoi ? Si à la base, le père, lui, en plus dans sa propre vie à lui, il énonce et il prononce des paroles fortes, mais que dans sa vie à lui, il vit le contraire ou il est le contraire. Un peu comme si le fils devait faire ou réparer quelque chose qui n'a pas été fait par lui-même et que son père lui demandait déjà. Et enfin, c'est une histoire qui n'en finit plus. Donc ça fait un gros... C'est le père à ce moment-là. L'ombre, si vous voulez, c'est le père qui dépose une charge sur le dos de son fils, et son fils est obligé de porter le poids de quelque chose qui ne lui appartient pas. Ça fait quand même la différence, quoi, entre porter un poids sur le dos, la vie est dure, enfin, des fois on entend comme ça dans l'éducation, oui, mais tu sais, la vie est dure, enfin voilà, il faut que tu fasses, enfin le fils il n'a pas apporté ce poids.
Alors, je ne sais pas si c'est dans le sujet, Claudine, mais est-ce que la mère n'a pas un rôle de
Oui,
traducteur
mais la mère, oui,
à
mais
jouer?
la mère, c'est vrai que la mère, bon, elle a son rôle vis-à-vis du fils. On en parlera dans les rencontres prochaines et même tardives de notre cycle. Je pense terminer par elle pour une raison qui m'est dont je la mets en dernier plan, c'est pour ne pas la faire venir directement. Mais pourquoi? Parce que la mère, effectivement, elle a un rôle à jouer et que son discours compte beaucoup dans la vie du fils aussi. Mais ils n'ont pas la même relation. Et le fils, lui, si la mère compte de trop et que le discours de la mère est trop puissante par rapport à celle du père, le fils va forcément faire une identification à la mère, par défaut de pouvoir en faire avec celle du père. Et bon, après, c'est sûr que dans ses choix et dans ses orientations, s'il fait une identification à la mère, bah, il va verser. Moi, je ne porte aucun jugement là-dessus, mais si il verse vers la mère, il verse vers forcément du côté de son féminin à lui, mais pas du féminin bien symbolisé pour lui, il va s'identifier à une femme. Ça peut être totalement assumé pour un homme, cette féminité-là, mais en même temps, ça va lui poser un énorme problème. Même s'il accepte son homosexualité et qu'il va la vivre pleinement, il aura quand même, dans l'homosexualité, on en parlera plus tard, il sera obligé quelque part de revenir sur un homme d'une autre façon pour pouvoir en savoir quelque chose sur cet homme. Vous voyez?
Comment ça se passe dans une famille monoparentale comme il en existe beaucoup aujourd'hui? Il n'y a pas de père. Il faut en fait quelqu'un qui va
Oui,
symboliser
il faut
l'image du
même un
père.
substitut. Alors souvent, dans une famille, le frère ou le frère aîné ou un oncle ou voilà, quelqu'un de la famille peut poser un acte en tant que modèle sur les identifications. Ou alors ça peut être quelqu'un de l'extérieur. Mais ce quelqu'un de l'extérieur, voilà, c'est comme ça démarre dans la toute petite enfance de ce petit homme-là. Il faut une autre figure. Il faut une autre figure. Mais même quand il y a une autre figure du côté de la substitution, ça ne règle pas, si vous voulez, l'ombre du père pour lui.
Vous nous conseillez quelques saines lectures ou quelques
Oui,
films à
moi je vous
visionner?
conseille actuellement, il y a un très très beau film à aller voir et peut-être une bande dessinée à lire, très très belle, de Taniguchi. Et ils en ont fait une adaptation cinématographique qui est en salle en ce moment, c'est Quartier lointain. Et Quartier lointain, c'est
Oui.
une très belle BD de Taniguchi, qui en a fait d'autres d'ailleurs, qui sont admirables. C'est un japonais dont les scénarios et les dessins sont, je trouve, d'une beauté absolue. Et dans Quartier lointain, justement, Taniguchi raconte sa propre histoire de fils vis-à-vis de ce père. Donc je ne dis rien parce que on peut le qui est très très belle et qui a été repris sur le plan cinématographique, dont Pascal Grégory joue le rôle de Taniguchi. Voilà. Donc c'est en salle en ce moment, il faut aller le voir. Ou alors autrement, de lire un très bel ouvrage de Philippe Forest, auquel j'ai emprunté L'ombre du père, cette phrase. C'est Les célestes nuages ou un nom un peu comme ça. Enfin, il y a nuages dedans. Qu'on retrouve symboliquement dans le film de Quartier lointain. Relation aux nuages aussi, qui est très, très, très forte.
C'était les rencontres du Café Psy avec Claudine Bozio, psychanalyste, sur le sujet de l'homme mis à nu.